France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour William Christie.
Bonjour.
Bonjour Paul Agnew.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique qui fête toute cette semaine les 40 ans des Arts Florissants. Bon anniversaire. Arts Florissants que vous avez créé, William Christie, il y a donc 40 ans et dont vous êtes le directeur musical avec Paul Agnew, votre bras droit, votre adjoint. C'est d'ailleurs...
Non, alors là...
Ah, allez-y.
Paul est maintenant co-directeur. Important.
Co-directeur.
Co-directeur.
On y reviendra tout à l'heure.
Oui.
Monsieur Christie. C'est d'ailleurs rare de vous avoir tous les deux comme ça en interview. C'est souvent l'un ou l'autre.
C'est tout à fait vrai. Quand moi je suis avec l'orchestre ou avec le chœur, avec un ensemble, ça veut dire que William est ailleurs. Et puis voilà, donc on se voit plus rarement qu'on est vu pendant les années quand j'étais chanteur.
Parce que parfois, nous sommes une bête avec deux têtes, et parfois, deux têtes avec voilà, et deux corps. Voilà.
Quand vous êtes tous les deux, vous parlez en anglais.
Ça dépend.
Ça dépend.
Ça dépend le moment, oui. Et ça dépend des compagnies, bien sûr.
Ça dépend du sujet.
Alors ce matin, nous sommes à la Philharmonie de Paris, Cité de la Musique. C'est ici que se déroulent les festivités. Deux concerts samedi, un concert dimanche et un bal participatif, conférences et masterclass également, on en parlera tout à l'heure. Mais ce lieu, cette résidence, on voit là en face de nous cette Philharmonie, le bâtiment de Jean Nouvel. Après avoir quitté Caen pendant des années, comment vous le considérez? C'est votre maison?
Je crois que oui. Nous sommes très fiers d'être pensionnaires, si je veux dire, ou résidents de cette belle Philharmonie, cette belle Cité de la Musique. Oui, c'est un privilège.
Et on oublie, je crois que pendant la plupart des 40 ans, on était un ensemble itinérant. Donc ça veut dire qu'un jour on répétait là-bas dans le 15e, et puis le lendemain dans le 8e, et si on voulait une partition, il fallait appeler le bureau,
oui.
Et puis 3 heures après, ou 4 heures après, ou le lendemain, c'est arrivé. Et maintenant, c'est bien sûr que les conditions sont...
Mais le public pensait qu'on était bien installé à Caen, n'est-ce pas, dans les locaux somptueux. Moi, oui, à l'hôtel de région. Mais en effet, ils ignorent la vérité. On était SDF, littéralement, n'est-ce pas, un ensemble parisien qui n'avait pas de locaux pendant une trentaine d'années.
Au bout de 40 ans, William Christie, Paul Agnew... L'économie de cet ensemble, qui est le plus célèbre ensemble baroque, est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle est florissante, comme les arts florissants? Ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose de précaire pour un ensemble, de fragile pour un ensemble comme celui-ci?
Mais je crois que le milieu culturel est fragile, par définition. Et en France, mais un peu partout dans le monde. On a vécu... dans ce pays, comme ailleurs, des moments fastes, les moments où on était peut-être mieux subventionné, mieux tout simplement par rapport du volume du concert, mieux peut-être parce qu'il y avait un mécène ou des mécènes, n'est-ce pas, enfin, qui étaient présents aussi pour nous aider. Je crois que nous partageons maintenant cette fragilité avec l'ensemble, enfin, des ensembles, disons, qui ne sont pas agréés par l'État. Certes, nous avons de l'aide, enfin, des régions, des collectivités territoriales, mais oui, je crois que nous pouvons parler d'une certaine précarité.
Je crois que chez les informations, on aime donner... un bon mine, voilà, on se présente en concert, on présente un orchestre généreux, un chœur généreux. Et ça peut donner l'impression d'une certaine richesse. Mais on œuvre derrière. Et on a une équipe qui travaille, bien sûr, et nous-mêmes, on rencontre les mécènes constamment. Et c'est un défi, c'est un grand défi de notre temps, de continuer à présenter la musique comme il fallait. On peut toujours réduire, on peut toujours dire, non, on va faire un chœur de 12, pas de 24. Mais quel dommage pour une grande œuvre de George Frideric Handel de réduire la musique pour les économies. Il faut trouver les moyens pour le faire. Et ça, c'est devenu un travail, je dirais jamais aussi important que la musique, mais un grand partie de notre travail est concerné avec le.
Je crois qu'il faut quand même. Féliciter la France et peut-être aussi de dire, et je peux parler de la totalité des ensembles indépendants comme le nôtre, nous vivons un pays intelligent, peut-être moins riche qu'il était il y a 25 ou 30 ans, mais un pays qui n'a pas oublié ou laisser tomber, n'est-ce pas, ces artistes, comme c'est le cas dans combien d'autres pays en Europe.
Si je pense à mon pays, la Grande-Bretagne, je crois que les conditions sont beaucoup plus difficiles.
Regardez, par exemple, nos collègues dans les Pays-Bas, où du jour au lendemain, on a annoncé, vous n'aurez plus de subventions. Ici, la culture est considérée comme quelque chose d'indispensable. C'est une arme qu'utilise l'État avec une certaine intelligence. Il faut rappeler des Français que, en effet, le pays est quand même peut-être en difficulté, mais le pays a ô combien d'avantages par rapport à ce qui se passe ailleurs.
Le message ce matin de William Christie. La fête, c'est ce week-end à la Philharmonie de Paris et sur France Musique, avec samedi une soirée de gala diffusée en direct sur France Musique. Odyssée baroque et au programme, les arts florissants jouent les arts florissants. Les Arts Florissants, ouverture de ce divertissement, 5 scènes de Marc-Antoine Charpentier par Les Arts Florissants, dirigé par William Christie, notre invité ce matin, avec Paul Agnew, les deux directeurs, co-directeurs de l'ensemble baroque qui fête cette semaine ses 40 ans à la Philharmonie de Paris, où nous nous trouvons ce matin sur France Musique. Alors, des extraits de ces Arts Florissants, vous en jouerez samedi soir lors du concert de gala qui est diffusé sur France Musique en direct. Et ça se trouve aussi sur ce coffret des 40 ans édité par Harmonia Mundi. 3 disques, musique et théâtre, musique sacrée et musique profane. William Christie, pouvez-vous nous rappeler pourquoi il y a 40 ans, vous avez choisi ce titre-là de Marc-Antoine Charpentier comme nom à l'ensemble que vous alliez créer?
Car on était encombrés par un nom absolument mais imbuvable. À l'époque, quelqu'un, je crois du ministère peut-être, là, ou quelqu'un de... Enfin, un fonctionnaire nous a dit, écoutez, voici votre nom. Vous allez vous appeler l'ensemble vocal et instrumental baroque de l'Île-de-France. Rébarbatif, non? Et puis un jour, j'étais chez moi avec mes jeunes musiciens et il y avait notre génial ténor, toujours ami d'ailleurs, Michel Lapleny, qui avait sa partition des Arts florissants. Petite idylle en musique de Marc-Antoine Charpentier. Et bon, on a terminé travailler quelques pages de cette idylle en musique, les Arts florissants. Et puis, il commençait à murmurer comme un petit fou, les Arts florissants, les Arts florissants, les Arts florissants, les Arts flots. Les... Et puis, bon, il nous regarde, on était une dizaine dans mon salon à Paris, il me dit, voici le nom, c'est très beau. C'est la musique, les Arts florissants, et ça roule sur la langue, c'est joli. Et on a adopté ce nom. Notre éditeur de disques, M. Bernard Coutaz, a trouvé ça très bien, et il a même annexé ce nom pour lui-même, n'est-ce pas? Il l'a déposé légalement. Il a fallu, n'est-ce pas, qu'on se batte quelques années après pour récupérer le nom, tellement c'était... C'était bien.
Un bon nom. La raison d'être, d'origine, de l'ensemble, elle est toujours la même, 40 ans après?
De vivre la musique dans la joie. On était...
Ah. William Christie, Paul Agnew, ce sont donc deux anglo-saxons, un écossais, un américain, qui dirigent le plus célèbre ensemble baroque, dont... à l'origine, avait pour vocation de remettre en valeur cette musique française. Aujourd'hui, plus personne ne vous dit, mais pourquoi vous êtes, pourquoi c'est vous l'Écossais, c'est vous l'Américain, tout ça est acquis.
Je crois que nous avons fait nos épreuves. Je peux pas chanter aujourd'hui.
Preuve et épreuve.
Mais quand j'ai rencontré William, j'ai aussi rencontré un répertoire extraordinaire que je connaissais pas du tout. Parce que c'était pas du tout donné en Angleterre. Moi, j'ai eu une petite carrière comme soliste à l'époque avec les ensembles britanniques, avec l'English Concert, avec l'Academy of Ancient Music, etc. Mais on touchait jamais Rameau ni Charpentier parce que c'était trop difficile, franchement. On n'a pas fait le travail. Et donc, un peu par hasard, moi j'ai trouvé une musique qui était le mien. Moi, j'ai un instrument, c'est comme prendre un violon du XVIIe siècle, c'est fait pour la musique du XVIIe siècle. Et moi, je me suis trouvé avec un instrument qui est allé très bien avec cette musique que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est une éducation assez brusque, assez vite, il fallait que je travaille. Mais je crois nous avons fait nos épreuves. Au moins, j'espère que quand on entre sur scène, il n'y a pas quelqu'un dans le public qui dit comment c'est possible qu'un étranger peut faire
ça. Mais
musique.
Tu dis ça, mon cher, mais je me souviens, j'étais au tout début de mon long séjour ici en France, je crois que cet incident se passait à Nantes. Alors, il y a une bourgeoise de la ville, lors d'une réception à la préfecture. Elle arrive au miroir en disant « J'ai détecté un léger accent quand vous parlez français. » Alors je dis « Oui, je ne suis pas français. »« Oh, et d'où êtes-vous ?» J'ai dit « Buffalo. »« Buffalo. »« Buffalo, oh, oui, oui. » »« Mais, attendez, mais c'est vous qui avez joué le clavecin ?» Alors je dis « Oui, oui. » Alors j'ai vu qu'elle était trouble. Elle était troublée vraiment par... Un garçon de Buffalo, mais qui joue les clavecins. Et effectivement, quelques minutes après, elle arrive de nouveau. Elle me dit, écoutez, monsieur, en faisant des gestes, vous avez dit que vous êtes de Buffalo et vous jouez le clavecin. elle ne pouvait pas les conjuguer ensemble. Et je crois qu'elle avait l'idée, effectivement, moi sur un cheval, n'est-ce pas, en train de chasser le buffalo, n'est-ce pas, en jumeau du clap, ça. Et puis, mais il y avait cet extrême-là, mais également, ce qui était beaucoup plus sympathique, c'est un monsieur qui m'a dit, ah, je comprends ce que vous faites maintenant. Nous avons beaucoup de bagages culturels dans ce pays, et vous êtes là pour nous aider à porter, n'est-ce pas, le bagage. Je trouvais ça, l'image extraordinaire, un bagage culturel, comme si j'avais, je ne sais pas, la peinture de Simone Vouet, dans la valise à gauche, et puis enfin, les partitions de Ravel et Rameau dans l'autre main. Et voilà, je portais ce bagage vers je ne sais pas où, la gare de la culture. Mais c'était sympathique, ça.
Il est né à Buffalo, Bill Christie, Buffalo Bill Christie, William Christie, à 75 ans presque. Et Paul Agnew, nos deux invités ce matin. Je ne sais pas si on jouait beaucoup Michel Lambert il y a 40 ans. En tout cas, voici « Vous avez trop d'appât », extrait du dernier disque, deuxième volume, « Des airs sérieux à boire, si vous vouliez un jour ».«
Vous avez trop d'appât ».
Yeah.
Michel Lambert, vous avez trop d'appât, Emmanuel de Negri, Reinoud van Mechelen et Cyril Ovidy, les arts florissants, dirigés par vous, William Christie, notre invité, ce matin, avec Paul Agnew, les deux directeurs musicaux des arts florissants. C'est la fête, les 40 ans, toute la semaine sur France Musique, jusqu'à dimanche à la Philharmonie de Paris, où nous nous trouvons ce matin, et ce sera également sur l'antenne de France Musique avec le concert en direct samedi soir. Alors là, on écoutait un extrait du deuxième volume consacré aux airs sérieux et à boire. Ce projet, William Christie, il aura une suite. Il y a beaucoup de répertoires encore à découvrir dans l'œuvre de Lambert, le Camus, Moulinier et les autres.
Mais je crois que ce qui lie maintenant Paul et moi, c'est que nous sommes d'abord très ambitieux, et dans la mesure où on voudrait explorer toute une œuvre d'un Gesualdo ou toute une œuvre de Monteverdi. Et mon plaisir, c'est surtout de puiser dans cet extraordinaire répertoire de la petite musique profane du XVIIe siècle, c'est-à-dire cette école qu'on appelle l'école de l'ère sérieux, qui commence avec les faiseurs de ballet, les Guédron, les Boissé au début du XVIIe, et qui se termine à l'extrême fin du XVIIe siècle. Et c'est un répertoire d'immense beauté. D'ailleurs, pour notre Odyssée baroque, nous avons maintenant un grand chœur, grand orchestre soliste, et le public peut tout simplement prendre un bain dans les grandes pages des tragédies lyriques, enfin, les opéras sérieux d'Handel. Et puis, il y a Marc Moyon et Tommy Dunford, Marc chanteur, bariton, et Tom Dunford, qui joue un théorbe, il s'installe. Après avoir entendu ces torrents de musique symphonique, chorale, et puis un simple air sérieux, donc de ce répertoire que j'affectionne tout le temps, et le public est complètement conquis. Peut-être les plus grands applaudissements pendant toute la soirée, c'est pour un seul chanteur et son luthiste.
Odyssée baroque, c'est aussi le titre de ce concert samedi soir à la Philharmonie de Paris qui sera diffusé sur France Musique en direct. Parlons-en de ce week-end de festivités ici à la Philharmonie où on se trouve ce matin. Quel paradoxe d'ailleurs que le grand concert ait lieu dans la salle Pierre Boulez. Il n'a pas toujours été très, très aimable avec les arts florissants, Pierre Boulez, ou avec cette musique baroque.
Alors là, je peux quand même révéler l'existence d'une amitié que je dois deux personnes, Brigitte Marger, de sainte mémoire, puisque c'est elle qui était l'âme, de toute l'opération boulésienne pendant un long moment, et puis notre directeur, de la Philharmonie aussi, qui, dans une vie antérieure, Laurent Bell, était l'administrateur de Pierre Boulez. Ça veut dire que, oui, j'avais accès, ou plutôt, il y avait la possibilité de croiser et rencontrer et causer avec l'homme si célèbre. Et c'est vrai qu'il n'était pas tout à fait tendre avec les baroqueux. Et je me souviens, au début de cette amitié que j'ai qui s'est formé entre lui et moi, l'avoir dit à Pierre un jour, « Pierre, tu es comme un vieux chien collé, n'est-ce pas ? Et quand on tourne le dos, tu me mords les chevilles. Hein? » Oui. « Oh, oui, mais il faut que je défende quand même une position, disait-il. » Mais en effet, Pierre était un homme humaniste. Et ça, peut-être, c'est le mot que je peux utiliser pour décrire notre amitié. Une amitié tardive, mais une amitié qui nous a permis, par exemple, de dîner ensemble. Il y avait des moments où il était délicieusement commère. Il adorait les ragots.
Pourtant, il détestait qu'on parle de sa vie privée.
Oh, ben bien sûr. Il m'a bien un jour avoué qu'il avait une petite flirte avec Jean-Philippe Rameau, qu'il avait même préparé une édition d'Hippolyte et Aïssi, et qui était enregistrée. Oh, il y a peut-être une quarantaine d'années. Oui. Oh, oui. Ah, je ne sais pas si ça figure dans la biographie officielle de Pierre, mais voilà. Mais ça, je dis ça avec énormément de d'affection et je dirais de reconnaissance. Oui. Et que voilà, je peux dire qu'à la fin de sa vie, j'étais en bon terme avec lui.
Oui. C'est donc dans cette salle Pierre Boulez qu'aura lieu la soirée de gala samedi soir avec les Arts Florissants, Odyssée Baroque. Je vous propose d'écouter un autre extrait d'un disque, parce qu'il y a beaucoup de disques qui sont sortis cette année. Cette fois, c'est vous, Paul Agnew, qui dirigez les Arts Florissants, l'ensemble vocal avec Gesualdo. Et ce madrigal, Non mirar, non mirare. Un madrigal de Carlo Gesualdo, Non mirar, non mirare, les Arts Florissants, dirigé par Paul Agnew, l'un des derniers enregistrements de l'ensemble. Paul Agnew, notre invité, avec William Christie, ce matin, les deux directeurs musicaux de l'ensemble qui fête ses 40 ans sur France Musique, à la Philharmonie de Paris, toute cette semaine, des concerts à foison, on en a parlé tout à l'heure, vendredi, samedi, dimanche, et puis donc beaucoup de disques, Gesualdo, livre 2, France Musique participe d'ailleurs à ce projet discographique, le livre 4, ce sera le 10 février à la Philharmonie de Paris, puis on l'entendra ensuite sur France Musique et il y aura le disque, il y a le disque Monteverdi qu'on va écouter dans un instant, ce deuxième volume des airs sérieux et à boire dont on a parlé. Votre rapport au disque en 40 ans, William Christie, comment il a évolué avec le temps? À un moment donné, vous étiez sans maison de disques.
Rarement, en fait. On était sollicités, moi et le concerto vocal, en 75.
De René Jacobs.
Avec René Jacobs, avec Ziggy Svartkirken, avec Judith Nelson, avec Konrad Junghill. Et voilà. Et j'ai pu, c'était pas sans difficulté, j'ai pu introduire mon jeune ensemble des Arts Florissants dans la même maison. Après quelques hésitations, il faut bien dire, de la part de Bernard Courtals et sa femme, qui disaient un jour, ah, oh, musique ancienne, il n'y a que des Anglos et des Hollandais qui font ça. Je dis non, nous sommes Français et on veut tout simplement faire de la musique française. Oh, ça ne va jamais se vendre. Mais il a eu tort. Mais il y a une chose qui est importante à signaler, peut-être, et puisque nous sommes ici à Radio France, musique, France Musique, c'est que moi j'ai commencé ma carrière ici en France grâce à une audition que j'ai faite à White River Junction, dans l'état de Vermont, pour un certain Charles Duvel qui travaillait pour l'ORTF, les inédits de l'ORTF, en 1960. Et mon premier enregistrement sérieux, c'était fait pour l'ORTF, France Musique. Et ça, c'était un constant, c'est-à-dire notre association avec vous, depuis le tout début.
Et ça continue 40 ans après. William Christie, Paul Agnew, vous êtes les deux directeurs musicaux. Ça vous arrive d'être parfois en désaccord artistique?
En désaccord Paul artistique Agnew.
Non. Et là, William Christie met sa main sur l'épaule de Paul Agnew.
Sans doute, oui et non. Mais en tout cas, on n'exprime pas ça. On peut très bien avoir des visions différentes de la même musique, bien sûr. Mais je me souviens, comme c'était hier, quand William m'a proposé pour la première fois que je dirige l'orchestre et chœur, et avec une générosité très sincère, je crois. Il a dit, le dernier chose qu'il faut faire, c'est une impression de moi. Il ne faut pas faire les arfoissons William Christie dirigé par quelqu'un d'autre. Il faut faire les arfoissons dirigés par Paul Agnew. Et donc, oui, bien sûr, on peut très bien voir un répertoire d'une façon très, très différente. Mais vive la différence.
Ça vous stresse, Paul Agnew, quand il est dans la salle, William Christie?
Naturellement, oui, un tout petit peu.
Mais c'est réciproque.
J'allais vous poser la même question.
Mais nous avons fait tellement de musique ensemble.
Paul a tout dit.
William Christie, Paul Agnew, c'est votre successeur. Vous êtes tous les deux directeurs. Quand vous l'avez choisi, il y a pas mal d'années maintenant, c'était aussi pour transmettre. On parlait de transmission avec le Jardin des Voix. Parfois,
c'est un mot important, la transmission. Je peux peut-être formuler une petite critique envers le milieu culturel en France. La mode est très opérationnelle dans ce pays. C'est une bonne chose. On aime la mode, mais on n'aime pas la mode par moment. Par exemple, il y a quelques années, je ne sais pas quel journaliste, quelqu'un que je ne peux pas aimer trop, me disait « Ah, mais il est peut-être grand temps que Christie cède sa place à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune. Ah oui, et ces arts-florissants, mais ils empêchent effectivement les jeunes gens, n'est-ce pas, à se présenter et les jeunes ensemble. » Ça, c'est complètement stupide. D'abord, on connaît beaucoup de ces jeunes gens-là, et peut-être ils peuvent bénéficier effectivement d'un climat, qui est très favorable effectivement à la musique ancienne. La concurrence est une bonne chose. Mais il y a également une sorte de non-sens dans ce, dans le bon vieux temps, à une institution comme la Scuola Cantorum ou l'Orchestre Colonne ou Padeloup. Mais oui, on voyait ça dans une sorte de continuité. Regardez par exemple dans mon pays, le pays de Trump maintenant, mais qui a quand même encore quelques institutions musicales de grande envergure. L'Orchestre de Cleveland ou l'Orchestre de Boston, parmi les meilleurs au monde. Mais qu'est-ce qu'on aime? On aime l'idée que voilà, en fait, des 150 ans, que maintenant, par exemple, un jeune Français-Canadien va être à la Met, oui, n'est-ce pas? Mais ça, c'est merveilleux.
Car on, Yannick Nézet-Séguin.
Évidemment, qui est un garçon absolument superbe. Mais il fait partie, maintenant, d'une longue tradition. C'est ça que je souhaite pour nous, hein, d'avoir la possibilité de vivre les projets à long terme, la pédagogie, la recherche. Et puis, c'est une question de transmission. Nous avons peut-être trouvé une façon de redonner de l'éloquence à une musique que nous aimons. Et je suis sûr que d'ici quelques années, ça peut continuer, ça peut changer, évidemment. Et donc, on donne à un public ce sens, l'importance d'un ensemble, mais aussi le sens que dans la continuité, on peut vivre cette richesse des individus qui se succèdent aussi. Ça, c'est très important. Hein. Ce que fait notre Yannick à New York, oh, il est en train de bouleverser effectivement les choses, n'est-ce pas? Et c'est exactement pour cela qu'on aimerait bien que cette succession d'individus se fasse.
Les 40 ans des concerts ce week-end à la Philharmonie de Paris, le concert de Gada en direct samedi soir sur France Musique. Plein de disques, le couronnement de Poppée de Monteverdi qui vient de sortir. Gesualdo, les Madrigaux, le livre 2, le deuxième volume « Désert sérieux et à boire ». Et puis ce coffret des 40 ans, tiens, sur ce coffret, sur quelle musique on pourrait se quitter ce matin?
Allez, moi je jouerai un extrait de Datis. Parce qu'il y a une œuvre qui est emblématique de tout ce qu'on a parlé ce matin. Ça veut dire une découverte, une célébration d'un répertoire qui était autrement... Dans une œuvre, toute l'importance de ce mouvement de Les Enfants.
Merci messieurs.
Merci à vous.
Avec très grand plaisir.
Le prélude pour le sommeil, extrait d'Attis de Jean-Baptiste Lully, Les Arts Florissants, dirigé par William Christie en 1987, enregistré d'ailleurs à la Maison de la Radio. Un enregistrement de légende à retrouver sur le coffret des 40 ans des Arts Florissants, paru chez Harmonia Mundi. Rendez-vous jusqu'à dimanche à la Philharmonie de Paris pour tous les concerts de cet anniversaire et samedi soir à 20h en direct sur France Musique. Demain, les invités de Gabriel Oliveira Guyon seront le chorégraphe Mourad Merzouki et le chef de l'ensemble de concerts de l'Hostel Dieu, Franck-Emmanuel Comte, pour le spectacle Folia. C'est en ce moment à Paris au 13e art. À la technique, Alex Billard, Antoine Giraud et à la Philharmonie, Fabien Gosset. Salomé Coq, Marion Guillemet et Margot Muller ont préparé Musique Matin et Yacine Bouzard l'a réalisé. La réponse de notre jeu il y a une heure, c'était Bohemian Rhapsody de Queen, une chanson de 1975 jouée à la harpe avec Alexandre Boldachev. C'était dans Génération France Musique, le live il y a quelques semaines. Une étonnante version à écouter et à voir en vidéo sur francemusique.fr. Très bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.